Grazia. Grazia Delicam, la bande originale.
Bonjour, je suis Arnaud Laporte et vous écoutez le podcast Cannes en grand, consacré aux stars et personnalités françaises qui vont briller lors de cette 71e édition du Festival de Cannes.
Grazia.
Aujourd'hui, nous recevons le musicien Bertrand Burgala, qui a composé la bande originale de Yves, de Benoît Forgeard, présentée à la quinzaine des réalisateurs. Il faut dire que dans Yves, un frigo doté d'une surprenante intelligence artificielle va aider un apprenti rappeur à composer son premier album. Bertrand Burgala, les compositeurs de musique de film connus et reconnus se comptent sur les doigts de la main de Django Reinhardt. Blague pour initier. Est-ce que vous avez le sentiment que la musique de film, c'est toujours considéré comme un sous-genre ?
Ça dépend, parce que tout de même, on voit il y a quand même des grands compositeurs qui sont quand même immensément reconnus et de façon très, très justifiée, ce qui est plus que justifié. Mais ce qui est certain, c'est que... Alors on dit le compositeur, c'est le troisième créateur de musique d'un film, après le scénariste et le réalisateur. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a eu une évolution du numérique le numérique a peut-être amplifié certaines choses. Parce que quand on commence à monter un film aujourd'hui, avant les choses étaient très scindées. Il y avait le montage image et puis il y avait le montage son. Et maintenant, avec les outils numériques, en particulier avec Avid, qui est un logiciel de montage, le réalisateur met ses rushs, enfin commence à monter. Évidemment, il est inquiet et il va se rassurer. Le monteur, le rôle du monteur image finalement est devenu primordial pour la musique, parce que si le monteur image commence à saupoudrer le montage de musique préexistante, et en général qui sont excellentes, parce qu'on prend comme référence des chefs-d'œuvre en général, et bien après, c'est très difficile de s'en libérer, parce qu'on s'est habitué à entendre des choses merveilleuses, et qu'une fois qu'on a entendu le London Symphonic Orchestra avec John Williams, la maquette que va amener le compositeur avec son piano, son petit ordinateur, évidemment, même si elle était très bien, c'est très inhibant. Donc on s'est habitué à ça, et on a parfois tendance à demander au compositeur soit de pasticher quelque chose, soit l'accabler de références excellentes, mais qui vont le perdre. Et puis surtout, on met beaucoup de musique préexistante, de tubes, parce que tout d'un coup, on a l'impression, on n'a peut-être pas fait un super bon film, mais il y a quand même Otis Redding qui nous a fait la musique, donc ça fait des... Bon, voilà, mais en dehors de ça, la qualité d'un réalisateur... pour moi, ça dépend d'abord du réalisateur. Et je pense qu'un bon réalisateur, c'est pas quelqu'un qui connaît la musique, parce que le fait de s'y connaître, c'est comme dire je m'y connais en football. Pour moi, soit on est footballeur, soit on joue, soit on regarde les autres jouer. Mais c'est pas. Je pense qu'un très bon pour un musicien, c'est pas la connaissance du réalisateur, mais sa facilité à s'exprimer, sa capacité à partager sa vision des choses. Et avec tous les corps de métier, que ça soit avec le décorateur, avec les acteurs et avec le musicien. Et ça, c'est très appréciable. Et moi, malheureusement, je suis pas aussi chevronné que certains compositeurs de musique de film qui alignent des dizaines, voire des centaines de musiques. J'ai pas malheureusement leur expérience, mais j'ai travaillé avec des réalisateurs très différents. Et je trouve que ce que j'apprécie dans ce travail, c'est justement c'est des personnes très différentes, mais qui ont cette capacité à transmettre ce qui leur semble bien pour le film. Et après, c'est là où le travail du musicien, c'est déjà un travail de décryptage de ce que veut le réalisateur, de comprendre derrière les mots quelle est vraiment sa vision, et puis après, évidemment, d'apporter sa sensibilité, ce qui nous paraît bien pour le film. Mais c'est d'abord un dialogue, je trouve. Et il faut aussi que les producteurs ont tendance un peu aujourd'hui à intercaler entre le réalisateur et le musicien, ce qu'on appelle les superviseurs musicaux, et qui peuvent brouiller un peu ce dialogue, qui peuvent compliquer les choses sans le vouloir d'ailleurs. Mais parce que parfois, voilà, il faut arriver déjà à décrypter ce qui... C'est pas parce qu'un réalisateur dit « je voudrais des violons » qu'il veut des violons. Peut-être que s'il dit « je veux des violons », c'est qu'il n'en veut pas. Et inversement.
Alors, il y a plein d'éléments dans ce que vous venez de dire, Bertrand Burgala, mais Par exemple, sur la question de l'imitation, on ne va pas imiter tel ou tel, mais on va dire la grande musique de films hollywoodiens, il y a beaucoup été voir du côté de Wagner, par exemple, Disney du côté de Ravel ou de Debussy, il y a toujours quand même une grosse influence.
Enfin, je pense qu'un musicien qui dirait qu'il n'a pas d'influence, il faudrait quand même. Ça me paraîtrait un petit peu louche quand même. Je pense qu'en tout cas, ce qui est important, c'est d'avoir des admirations comme musicien et des inspirations aussi, et si possible, de les revendiquer. C'est marrant parce que l'autre jour, j'ai accompagné ma femme à l'opéra. Et c'était un répertoire que je connais mal, du Puccini, des choses comme ça, qui sont admirables. C'est vraiment formidable. Et tout d'un coup, j'avais l'impression, effectivement, d'entendre toutes les plus belles musiques d'Hollywood, parce qu'on se rend compte du poids, de l'influence qu'a eu l'opéra italien ou Wagner, effectivement, sur les compositeurs de musique de film. Je pense que ça a engendré des choses absolument formidables et absolument originales, comme le blues a engendré les Stones. Donc ça ne me dérange pas. Ce qui est difficile, peut-être, ce qu'il faut arriver à surpasser aujourd'hui, c'est la tendance de l'époque à vouloir toujours pouvoir reconnaître, identifier quelque chose. Et donc se rassurer en ayant l'impression qu'on veut que tout ait l'air nouveau, mais que tout ait déjà été fait. Parce qu'autrement, on n'y arrive pas.
Alors, vous êtes à Cannes cette année, Bertrand Burgala, d'une part pour accompagner Yves de Bonnin-Forjard, on va en parler, mais aussi à l'invitation de la SACEM, qui organise toute une série d'événements pour valoriser la musique, en parlant des compositeurs comme, je cite, et vous l'avez dit tout à l'heure, les troisièmes auteurs d'un film, au même titre qu'un réalisateur et qu'un scénariste. Est-ce que vous adhérez complètement à cette idée-là ?
L'idée du compositeur-auteur, je pense que ça peut l'être. En tout cas, c'est bien, mais je le revendique pas moi. C'est vrai qu'il y a ce truc... Quand on lit les mémoires de Michel Legrand, on sent qu'il y a une amitié avec Demy qui s'est quasiment rompue, qui a mis 20 ans après à se déliter, mais que c'était mort dès la Palme d'Or à Cannes pour les Parapluies de Cherbourg, puisque Demy se lève, dit « le réalisateur est primé, donc il y va seul ». Et Legrand, je pense qu'il a toute sa vie après a complètement fulminé, parce qu'effectivement, les Parapluies de Cherbourg, c'est quand même une œuvre musicale et dans laquelle les musiques de Legrand étaient très importantes. Donc je pense que chaque cas est très différent, c'est-à-dire qu'il y a des films où l'absence de où il y a très peu de musique. Moi, je me souviens d'un film. J'avais été dans le jury d'un festival à Cabourg. Et moi, ce qui est très agréable quand on est dans un jury comme ça, c'est qu'il y a une promiscuité pendant quelques jours. Mais moi, j'essaie de ne rien savoir sur les films que je vais voir, de pas consulter le dossier de presse, juste de regarder les images et de penser. Et il y avait un film portugais. Tout le monde, à part, il y avait Amira Kazar aussi qui l'aimait, mais tous les autres se fichaient de ce film en disant vraiment il est ridicule. Et je me disais mais c'est bien. Et dès les premières notes de piano. Je trouvais que, enfin, c'était gagné pour moi. Et ça devenait un peu un running gag dans le jury en disant vraiment ce film et ça. Et nous, on se battait. Je crois qu'on avait quand même obtenu qu'il ait quelque chose. Mais c'était. Et quelques mois après, ce film est sorti en France. Et c'était un grand succès. C'était Tabou de Miguel Gomez. Et dans ce film, qui dure longtemps quand même, il y a quasiment pas de musique. Il y a un peu au début. Et je crois qu'il y a un truc d'Héroïs d'Omar. Mais c'était une pianiste portugaise, Joana Sá. J'ai contacté après parce que je voulais sortir la musique. En fait, elle avait improvisé ce truc-là pour une autre scène du film. Et Miguel Gomez a mis au début, et je crois à la fin, c'est tout. Mais ça suffisait. Et donc, je ne sais pas si elle est co-auteur du film, mais en tout cas, cette improvisation de piano, il lui avait demandé de la refaire, d'ailleurs. C'est elle qui avait voulu la refaire, parce qu'elle n'était pas contente techniquement d'un truc. Et il lui avait dit, il avait eu raison, il a dit non, elle est parfaite. Et il l'avait gardée comme ça, parce qu'il y avait un charme, il y avait quelque chose. Donc, je crois qu'à chaque fois, quand même, dans la musique avec l'image, il n'y a pas deux fois... chaque cas est quand même très, très différent.
Et c'était comment votre première fois, Bertrand Burgala, votre première musique de film ?
Je crois que la première que j'ai signée comme ça, c'était pour Quadrille de Valérie Lemercier. C'était une initiative de Daniel Toscan-Duplantier qui avait initié une série de films reprenant Guitry. Et c'était la bonne idée et la mauvaise idée dangereuse parce qu'on dit genre quoi de neuf Guitry, mais c'est une écriture au cordeau Guitry mais absolument parfaite, mais qui est très difficile à reprendre. Et, euh, et, euh, Et finalement, je pense que c'est un film qui a très bien vieilli, parce que justement, il y avait une espèce de parti pris de studio, de décor, de costume, qui était assez extrême, finalement, et qui peut-être, à l'époque, avait dérouté, mais je pense qu'on le reverrait aujourd'hui, ça serait pas mal. Et à l'époque, c'était la première fois, il y avait un budget qui était pas énorme, mais qui aujourd'hui me paraîtrait même énorme par rapport à... Et donc j'avais tout mis, j'avais pas gagné un centime, mais on avait fait deux journées enfin une journée d'enregistrement à Abbey Road et une journée de mixage avec 28 musiciens. C'est quasiment l'effectif le plus important. C'est ma première musique de film a été celle où j'ai eu le plus de moyens finalement. Et je pensais que ça allait déclencher plein de trucs. Et c'était en 97 quand même. Et vous voyez, 22 ans après, ben, je continue à en faire, mais toujours avec un peu les moyens du bord. Mais cette première, ça a été un peu comme le... Voilà, ce baptême-là a été assez génial. C'est pas moi qui dirigeais l'orchestre, c'était David Whittaker qui avait accepté, parce que j'étais trop timide pour faire un truc comme ça. Et c'était, voilà, un moment assez génial.
Alors, pour être un peu... On rentrait dans la technique, Bertrand Burgala, dans une bande originale, il y a la musique diégétique et la musique extra-diégétique. La musique diégétique, c'est celle qu'entendent les protagonistes du film, la musique extra-diégétique, donc elle est pour les seuls spectateurs, si je puis dire. Alors, comment vous travaillez? On a un cas d'école, c'est Yves, et vous avez retrouvé le dossier Yves, bande originale, Bertrand Burgala. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à l'intérieur. Est-ce qu'on pourrait rembobiner le film et se dire comment ça commence?
Ben, je pense qu'au départ, ça commence par Benoît Forgeard, que je connais maintenant depuis 2012. Et on travaille ensemble depuis qu'on s'est rencontrés. Et c'est quelqu'un que j'admire, que j'apprécie, que je trouve brillant. Et donc, pour moi, à chaque fois, c'est déjà quand il m'envoie un scénario, c'est un grand plaisir, parce que c'est brillant. C'est, si je prends je sais pas quelle version c'est, mais si je prends le scénario qu'il m'a envoyé, et c'est quelqu'un qui est très talentueux, qui est très précis, qui a une vraie rigueur de travail. Donc, tout est écrit d'une façon brillante. Il n'y a pas une virgule à changer pour les acteurs. Et ses indications aussi sont très précises. Et il arrive à être à la fois précis et à ne pas donc, nous ensevelir sous des références ou des choses qui vont complètement nous coincer. Et donc, le scénario... Enfin, je me souviens de le lire, je sais pas, dans le métro, mais de vraiment rire et de le trouver. Enfin voilà, c'est toujours très bien écrit, c'est préparé au cordeau, parce qu'aussi il y a une économie de moyens qui oblige à être rigoureux. Donc tous les acteurs répètent avant de jouer. Il fait un storyboard pour chaque scène, donc il est extrêmement tout est très précis. Et sur la musique, à la fois il est précis sur l'endroit où elle doit intervenir. Donc j'ai pas, enfin, même si après d'ailleurs il va reprendre certains bouts et les rajouter, etc. Mais il est quand même très très précis là-dessus. Il donne des indications, y compris. Alors souvent il donne comme indication des choses que j'ai déjà faites. Donc c'est pas mal parce que ça m'angoisse moins. Mais par exemple sur celle-là, il y a une scène. Quand il y a une scène que j'ai appelée Temps rompu, bon, c'est une allusion à l'affaire Boulin, parce que c'est là qu'on a retrouvé le corps de Robert Boulin, mais où le héros essaie de noyer son réfrigérateur intelligent dans un étang. Mais sur cette scène-là, par exemple, je me souviens qu'il m'avait cité une musique, je ne sais plus de quel film c'est, de François de Roubaix, je ne sais pas si c'est dans Le Samouraï. Enfin, il y a un truc très précis quand même. Et on est. Je l'ai écouté, bien sûr, mais j'ai essayé après de l'oublier, même si c'est difficile d'oublier des musiques aussi marquantes. Mais donc il y a quand même des moments qui sont, qui est presque une citation quand même de François de Roubaix. Mais j'ai essayé de pas le faire d'une façon scolaire, ou comme on peut faire des démarques dans la publicité. Et il y a d'autres moments, pareil, qui sont du pur, enfin, mais du pastiche un peu imaginaire. C'est-à-dire qu'il y a des scènes d'Eurovision où pour moi c'était un régal de faire un morceau de fado avec des paroles. C'est Arthur de Catastrophe qui parle pas un mot de portugais, mais qui a écrit un texte en français qu'il a fait traduire par une amie. Et ses paroles sont démentes parce que c'est un aspirateur qui aspire les miettes. Et enfin, il dit, pendant que tu manges ces pastels de nata qui te font grossir, moi, je ramasse les miettes. Enfin, il y a tout un truc. Il y a une cafetière qui fait de la variété italienne et il y a un lave-linge allemand. Et j'avais demandé à mes amis de Leiber s'ils voulaient faire parce qu'ils voulaient un truc à la Rammstein. Et comme Rammstein est une démarque de Leiber eux-mêmes, ils m'ont dit, bon, c'est compliqué, vas-y, fais-le, tu sais le faire. Donc j'ai fait un pastiche de Rammstein pastichant Leiber. Et c'est Thomas Pourquery, je suis pas sûr qu'il parle allemand non plus, qui a fait la voix. Donc voilà, mais ça, c'est des trucs qui, à l'écran, durent 10 secondes, mais qui prennent pas mal de temps à faire, parce qu'il faut que ça soit crédible. Ça prend parfois plus de temps qu'une scène de 3 minutes, mais c'est assez marrant à faire. Et c'est plus marrant, enfin, je trouve ça plus intéressant que si on avait pris des musiques préexistantes.
Il y a une dimension particulière dans Yves, c'est qu'il y a une forte présence alors, de la musique diégétique, puisque Jerem, c'est donc un wannabe rappeur, on va dire ça comme ça pour être gentil. Donc il y a beaucoup de musique signée Mime pour le rap. Donc qu'est-ce qui vous demande, Benoît Forgeard, d'être un contrepoint ?
Alors au début, je devais tout faire, je pense. Et j'avais commencé à faire des raps. Mais ils étaient trop idéalisés. Enfin, ils étaient idéalisés au sens où je pense que ça aurait manqué de crédibilité. J'ai une version, je dois l'avoir quelque part, de Carrément rien à branler. J'ai fait ça, je sais pas, il y a presque 2 ans, quand j'avais lu le scénario, je l'avais fait. Mais je pense que c'était pas assez PNL, pas assez truc comme ça. Et je trouve génial qu'il ait pris cette équipe, qu'il ait pris Mime, Tortoise, qu'il ait pris, parce que tout d'un coup, d'abord, c'est très bien fait, c'est très efficace et c'est ultra crédible. Et c'est ça qui est important. Et donc, on s'est complété comme ça. Mais au départ, c'était pas du tout. On avait parlé. Enfin, mais je suis pas assez. Comment dire? Je pense que je suis pas assez adaptable à des trucs comme ça. Je suis pas assez pubard d'une certaine façon pour faire du pur. Là, ça dépasse mes compétences. Et puis c'était très important, je pense, pour Benoît d'avoir une équipe qui puisse aussi driver, qui puisse coacher William, parce qu'il chante vraiment à l'écran. Et donc voilà, il y a un vrai truc de crédibilité. Et je trouve les paroles démentes. La plupart étaient déjà dans le scénario. Ils ont été adaptés après. Par Tortoise et tout, mais il y a des paroles vraiment terribles. J'essaierai de les retrouver. Je pense que je dois avoir la première version de Carrément rien à branler là dans le disque dur.
On va chercher ça, ouais. Évidemment. Une fois que le contrat est passé, si je puis dire, vous composé de votre côté avec le scénario ou est-ce que vous aimez composer devant des images, un pré-montage ?
Alors, souvent, je reçois le scénario, je cherche des choses. Je les envoie à Benoît, et en général, c'est souvent à côté. Mais j'ai pas, en général, on n'a pas, j'ai pas les images tout de suite. En fait, tout est possible. On peut composer des choses avant. Parfois, il y a des choses qu'il faut composer avant parce que ça va être tourné après, à partir de ça. Et après, souvent, ça se fait avec le montage. Après, je me souviens ici d'avoir fait un thème. Par exemple, da 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 da. Et j'avais presque peur, je le trouvais presque trop évident. Je me disais, mais je dois être en train de pomper un truc. Et apparemment, non. Mais parfois, quand c'est presque trop commercial, ça me fait peur. Je me dis, je dois être en train de... Peut-être que c'est un truc de Jake... Enfin, je vais pas me comparer à Jake... Mais peut-être que c'est un thème super évident que je suis en train de ressortir d'une façon inconsciente. Bon, pour le moment, enfin, on n'a pas encore reçu de signalement. Mais en tout cas, si c'est le cas, c'est tout à fait involontaire.
Mais dans l'idéal, vous préféreriez être avec votre piano devant le grand écran et composer sur les images ?
Eh ben non, parce que ça, je trouve que c'est la chance de faire des disques par ailleurs. C'est que j'essaie pas de faire mon disque par procuration. Donc ça m'est arrivé de faire ce qui est pas du tout le cas. Là, j'ai pas eu de morceau refusé, de chute, de truc où je me dis ah c'est dommage, il est super. Mais si c'est le cas, je me dis bon, si ce morceau est si bien, ben j'en ferai autre chose. Pas sur une musique de film, parce qu'à chaque fois on repart, il faut repartir d'une page blanche. Mais ça m'est arrivé sur mon précédent album. J'avais travaillé avant mon dernier album, j'avais travaillé avec Pascal Bonitzer. C'était vraiment très agréable. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Mais il y avait une scène sur laquelle Je merdais complètement. Une scène de frigo, d'ailleurs. Vraiment, on est... Il y avait un... Et Agathe Bonitzer ouvrait un réfrigérateur, il y avait un chien qui passait. Et je suis timide, Pascal est aussi. On a passé peut-être un mois autour de cette scène de quelques secondes. Et j'ai cherché un nombre de trucs. Et en fait, il fallait juste une petite nappe de synthé. Mais c'est génial parce que grâce à ça, j'ai trouvé plein de morceaux. Je me disais, finalement, il est pas mal celui-là. Je les ai gardés pour mon disque. Donc ça a fini par débloquer parce qu'on cherche un peu en quinconce. On cherche pour une musique du film et puis voilà, c'est pas Christophe Colomb qui cherchait les Indes, mais bon, mais on cherche autre, on finit par trouver autre chose. Donc ça ne me gêne pas quand un, parfois on essaye on va se battre pour une scène, on va se dire, mais moi, si je le fais, c'est parce que ça me paraît bien pour le film, c'est pas pour moi. Je suis pas dans un truc hyper, corporatiste, en disant, je veux que ma musique soit en avant. On a toujours l'impression que la musique est pas assez forte quand on est musicien dans le film. Donc ça, c'est naturel. Si elle est vraiment pas assez, on va le dire, parce que pour le film, mais c'est pas... c'est pas sa frustration personnelle. On est au service. C'est quand même un projet. Il y a quand même l'auteur, c'est le réalisateur. Et on est au service de sa vision. On est là pour essayer de le servir au mieux. Moi, ça, j'ai compris. J'ai eu l'occasion une fois de travailler pour quelque chose de très ponctuel avec Bertrand Tavernier. Et j'ai été épaté par sa gentillesse, par sa façon d'encourager. Et justement, c'est d'une certaine façon, quelqu'un comme Benoît, dans un registre très différent, me semble très proche de ça et de cette rigueur.
Et puis, on ne va pas divulgâcher où et quand, mais on voit Bertrand Burgala à l'écran, acteur, dans Yves. Vous aimez ça, faire l'acteur ?
Non, parce que, je suis ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire que je trouve que c'est pas mal de faire des choses qui sont justement pas dans nos rêves, parce que du coup, on n'a pas de déception. La musique, j'ai été plus blessé par des choses en musique. J'ai eu plus de déceptions en musique, mais apparitions au cinéma. Je pense que si on faisait un DVD, tous mes featuring comme ça dans des films, ça prendra pas beaucoup de mémoire sur votre ordinateur. Mais au début, il y avait une sorte de malédiction, c'est que j'avais quelques amis réalisateurs qui, je pense à Philippe Harel par exemple, qui m'avait demandé de faire une apparition, de dire trois phrases comme ça dans un film dont je devais faire la musique. Puis finalement, c'était Alexandre Desplat qui avait fait la musique. Et ça m'est arrivé une deuxième fois. Et ce qui fait que quand Eva Ionesco, après, m'avait demandé de dire encore une phrase dans son film, je dis bon, bah, ok, je suis sûr qu'elle va prendre quelqu'un d'autre. Puis finalement, ça a brisé un peu le sortilège. Mais moi, j'ai beaucoup justement, quand je vois un film comme ça, je trouve que tout le monde joue très bien. Et moi, ma seule angoisse, c'est de me dire, j'espère qu'on ne va pas dire, bon, le film est bien, mais vraiment, le magistrat, c'est vraiment, cette scène-là est vraiment pathétique. Tout ce que je veux, c'est pas plomber cette scène. Mais je trouve Dorothée Tillier, William, ils sont incroyables. Enfin, c'est très bien. C'est très bien.
Bon, et maintenant, il faut qu'on cherche votre version de Carrément Rien à Branler, alors.
Je vais regarder dans le disque. Je vais regarder dans ce disque-là. 2018-2019, Yves.
Est-ce que j'ai avec la voix ? C'est ça le problème. Attends, on va regarder, mais est-ce que je dois l'avoir là ? Avec la voix, c'est...
Ça, c'est l'instru.
Mais je vais le mettre sur mon prochain album. Ah si, il y a voix.
Paris pour m'installer dans un meublé. Ma vie sexuelle, c'est banal, mes biscuits tendulés. Je suis bien trop malin pour pouvoir m'accoupler. J'ai tatoué sur mon pied, carrément rien à branler. Carrément rien à branler, carrément rien à branler. Je rappelle, j'ai même plus où j'en suis dans le couplet. Maintenant je dis s'il vous, plus jamais je dis s'il vous plaît. Je voulais faire normal sup, mais je vais me faire un taboulé. Sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom, rien à branler.
L'autotune.
Oui, c'est mes débuts dans l'autotune. C'est vraiment, j'ai le niveau flocon. Et là, c'est la première version de Benoît, du texte. Voilà. Mais c'est trop esthétisant, je pense.
Merci à Bertrand Burgala. C'est la fin de cet épisode de la bande originale du Grazia Deli Can. Il a été monté et mixé par Frédéric Fortuny. Vous aimez l'émission ? Alors, s'il vous plaît, dites-le en nous mettant 5 étoiles sur l'application Apple Podcast et en partageant les épisodes autour de vous. Écoutez-nous sur Deezer, Apple et toutes les autres plateformes, ainsi que sur grazia.fr, où vous pouvez retrouver toute notre actualité consacrée au Festival de Cannes. À demain pour un nouvel épisode.